Bonjour et bienvenue au 13e épisode de Litteramour en compagnie de Sigrid Brinkmann. Je suis une espèce à part. Poisson le matin, oiseau le soir, arbre toute la journée. C'est ainsi que la peintre et poétesse libano-américaine Ethel Attnan décrivait son être. Ce 24 février, elle aurait eu 97 ans. Ethel Attnan est décédée le 14 novembre 2021. Cette édition de Litteramour lui est dédiée. En janvier 2005, une amie de Hambourg m'avait envoyé le recueil « Au cœur du cœur de notre pays ». Belle surprise, puisque je n'avais jamais entendu parler de l'autrice Ethel Attnan. Ce livre comprend des fragments de prose écrits en trois décennies, à Sausalito, dans la San Francisco Bay Area, à Paris et à Beyrouth, ville natale d'Ethel Attnan. À 24 ans, elle avait quitté le Liban pour des études de philosophie à la Sorbonne, puis à Berkeley et à Harvard. Portée par le mouvement protestataire contre la guerre au Vietnam, elle a osé se mettre à l'écriture. Des amis plasticiens et peintres l'ont encouragée à ne pas craindre la toile blanche et elle n'a pas hésité longtemps non plus. Ethel Attnan était chez elle en Californie, dans une maison au pied du mont Tamalpais, et c'est là que ses cendres ont été dispersées. Elle a profondément aimé cette montagne et l'a dessinée et peinte des centaines de fois. Au cours des dernières 15 années, elle s'était enracinée à Paris car il lui était de plus en plus difficile de voyager. J'y ai rencontré Ethel Attnan pour la première fois en mai 2006. À l'époque, on ne pouvait trouver que 4 livres d'elle en allemand et 3 en français. Elle avait écrit bien plus en anglais mais avait peu publié. Aujourd'hui, seule la Galerie Lelong, établie à New York, Zurich et Paris, a sorti 24 cahiers d'Ethel Attnan. « J'aime la vie », m'avait-elle dit lors de notre promenade sous un ciel gris, et aussi que pour elle, il n'y avait pas d'échelle de classement. Tout ce qui était avait une importance. Cette perspective, cette maxime, me revient toujours quand je pense à elle. Nous remontons dans l'année 2006, quand j'ai sonné à la porte en bas de la maison où Ethel Attnan vivait avec sa compagne, la céramiste Simone Fatal.
Bonjour, c'est Sigrid.
C'est au troisième.
Oui, très bien.
Une concierge nettoie silencieusement les fenêtres dans la cour. Je monte au troisième étage.
Voilà.
Est-ce qu'on va sortir un peu?
Oh bah, il fait frais, les foulards, j'en ai.
Bon, c'est très bien.
Alors nous,
vous voulez
nous
qu'on sortons. Au bazar?
J'ai mis au panier. Ah, qu'est-ce qu'il vient de jeter du papier? J'ai pas beaucoup d'archives, beaucoup d'écrivains dans des boîtes, et moi, il y a des années entières, il n'y a pas un papier, tant mieux. Allons
on fait un petit
bon, oui. Bon pas de promenade.
On va discuter là-bas. Attends voir si j'ai ma clé.
Regarde si tu as la clé. Je me demande si moi aussi je sais.
Attends, je n'ai pas mon porte-monnaie.
Tu as les deux?
J'ai pas mon porte-monnaie. Je vais pas avoir de l'argent à partir.
Ah oui.
Oui.
Ok, ciao.
C'est l'ascenseur, heureusement qu'ils l'ont mis.
Lorsqu'elle était à Paris, Ethel Attnan habitait le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Dans son livre « Paris mise à nu », elle compare la ville à un poison mortel dont elle aurait parfois aimé prendre une grande gorgée et faire taire sa vie. « Paris, dit-elle, est un mal distillé. » Une addiction passionnée. Nous nous sommes tranquillement promenés au milieu de la rue et elle me parlait de son désir de découvrir de nouveaux lieux et de la force hypnotique des cafés dont les tables doivent être nettoyées au moins toutes les demi-heures. Mais le quartier changeait beaucoup.
Des rues où il n'y a que des habits. Il n'y a plus la diversité dans les petites rues d'avant. Et autre chose qui s'est dégradée, c'est les lieux publics.
Paris était la base d'Etel Adnan en Europe. L'envie de s'évader soudainement pouvait l'assaillir à tout moment. « Je vais faire comme le commandant Cousteau », avait-elle noté. « Plonger et guetter les requins dans la mer Rouge. Ils sont si gentils par rapport à ceux qui m'entourent. Ce ne serait pas non plus si grave si l'un d'eux voulait me manger. L'eau salée va bien lui faciliter la digestion. » Nous voilà arrivés au jardin du Luxembourg.
Par exemple, voilà, le Luxembourg, regardez. C'était planté. Vous voyez le nombre de tennis ?
Oui.
C'est pas un jardin de sport, regardez les tennis. Tout oui. Ça, il y avait des arbres.
Il y a quatre et champs, oui.
Il y a ici un, deux, trois, quatre, et il y en a deux là-bas.
Oui.
C'est beaucoup pour un jardin, pareil. Vous comprenez, plus de promeneurs. Ils viennent, ils font du jogging. Bon, ça va. Mais ils ont stérilisé le jardin. Voilà. Ils remplissent chaque espace vide, ils le remplissent. Et c'est le monde moderne qui fait ça. La ville est pleine de panneaux. Tournez à droite, tournez à gauche, allez tout droit, ici poubelle. Il n'y a pas. Alors le Liban, c'est le pire, vous vous rappelez. Un endroit où l'œil se repose.
Il a commencé à pleuvoir et nous sommes vite rentrés à la maison. Etel Adnan est arrivé à Paris en 1949. À Beyrouth, on avait appris aux élèves qu'il n'y avait qu'une seule véritable destination pour eux. C'était Paris, la capitale des Lumières. C'était la France, le vieux centre de l'Europe. La jeune étudiante, qui avait grandi dans une ville au bord de la Méditerranée, fut choquée.
Paris était noir, c'était une ville noire. Physiquement noir. Vous savez que c'est à cause d'André Malraux qu'ils ont pris l'habitude en France de ravaler les bâtiments. Je voyais Paris comme des gravures, noir et blanc, ce contraste contre le paysage urbain. Et en même temps, les gens étaient très proches de la guerre. Ils parlaient encore presque à basse voix. On voyait encore. J'ai loué une chambre dans une famille française, bien sûr, retournant. Et ces dames me parlaient de la guerre et de l'occupation allemande. Et elles me disaient, les soldats allemands chantaient dans les rues. Et d'un côté, cette femme était sensible à la musique. D'autre part, elle me disait, nous fermions nos fenêtres pour ne pas entendre ces chants. On sentait des restrictions de la guerre. Tout ne marchait pas parfaitement. Il y avait encore, les magasins étaient assez pauvres. Les gens parlaient de la guerre. Je n'ai pas personnellement entendu les gens parler avec haine ou avec colère, mais avec une espèce de respect d'une tragédie qu'ils avaient vécue. Boulevard Jourdan. Il y avait des réfugiés, de jeunes réfugiés de la guerre. Pas des gens. Par exemple, il y avait des Yougoslaves qui peut-être étaient anti-Tito et qui étaient là en transit. Donc j'ai aussi vu la guerre en Europe et les réfugiés dans ce pavillon en plein Paris. Pour moi, l'après-guerre, c'est presque un moment musical tragique. C'est comme un requiem.
Pour la mère d'Etel Adnan, Paris signifiait le chaos. Les enfants qui avaient quitté la maison y disparaissaient à jamais. Etel était la fille unique d'une mère grecque née à Smyrne, aujourd'hui Izmir, et d'un père originaire de Dama. Il avait servi comme officier dans l'armée de l'Empire ottoman jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'en 1920, le Liban est devenu un territoire sous mandat français, le couple s'est installé à Beyrouth. Etel a visité une école catholique française. Parler arabe y était interdit. Ses parents arrêtaient de parler grec et turc. À la maison, on ne parlait que français. Il lui restait le souvenir des chants de sa mère. Et Adnan se mettait à chercher des disques.
Je mets de l'ordre, et dès que je mets de l'ordre, je ne trouve plus rien. parce que je ne sais plus où je les mets. Mais ils sont là. Ils n'ont pas voyagé. On voyage beaucoup, on a sa mémoire constamment. Oui. C'est comme des robinets, on ferme et on ouvre. Oui, alors, vous voyez, 1920, 1940. Vous voyez, c'est la musique de Smyrne, de ma mère. Le rejet, parfois, renforce aussi les identités et les mythes. En France, il y a beaucoup d'écrivains d'anciennes colonies françaises qui écrivent en français. Et on les appelle francophones. Ben, le mot francophone est un mot que je n'aime pas. Je suis une personne de langue française, oui. Parce que le mot francophone est une coupure. Il y a la littérature des Français et la littérature de ceux qui ne sont pas Français. Il n'y a pas ça nécessairement en Amérique. En Amérique, si vous écrivez en anglais, au bout d'un certain temps, c'est la littérature américaine. Et oui, par exemple, ils disent que ce sont des Latinos ou des Chinois. Enfin, c'est des Américains. Et j'étais comme un oiseau qui devait aller de branche en branche jusqu'au moment où il tombe quelque part qui lui convient. Je suis devenue un écrivain américain en écrivant, en participant au mouvement des poètes américains contre la guerre au Vietnam. Et vous voyez, il n'y a pas le mot d'équivalent « vous êtes francophone ». Et chaque fois, c'était une petite conquête. C'était petite, j'aime pas le mot « victoire », mais c'était un pas. Voilà. Moi, je suis devenue arabe en Amérique. Je suis partie en 49, la création d'Israël, c'était 48. Il a fallu quelques années pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et moi, j'ai connu des étudiants arabes à Berkeley, la ville association d'étudiants arabes, et c'est avec cette perspective que j'ai compris ce qui se passait dans le monde arabe. Je me sens d'ailleurs plus arabe que libanaise. Comme ma mère est grecque, c'est quand même à cheval entre l'Europe et l'Orient. Je ne me pose plus ces questions. Je ne veux pas être française, mais je sais aussi que ce n'est pas important.
Et que pensait-elle des émeutes qui ont commencé le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois à la suite de la mort de deux adolescents qui avaient cherché à échapper à un contrôle de police? Après un second événement le 30 octobre, les émeutes se sont étendues à l'ensemble de la Seine-Saint-Denis et puis partout en France.
D'un côté, je comprenais qu'ils en avaient marre, parce qu'il y a quand même un racisme anti-arabe. Et depuis Ben Laden, on a profité de cette histoire pour exprimer ouvertement une haine du monde musulman qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé avec les croisades. C'est normal que les Français n'aient pas supporté cette chose. Mais c'est aussi dommage qu'ils ne comprennent pas le problème des immigrés. Il est normal qu'ils viennent à Paris. Les Libanais sont bien reçus, ils n'ont pas de problème. Je ne les plains pas. Mais prenez les Noirs. Ils ne parlent que français au Mali. Alors un Français, les livres qu'il apprend, c'est l'histoire de France. La littérature qu'il apprend, c'est la littérature française. Il croit qu'en France, il est chez lui. Où voulez-vous qu'il aille ? Non mais vous comprenez. Donc c'est le prix à payer de la colonisation.
Après avoir publié son premier roman, Cite Marie-Rose, en 1978, aujourd'hui un classique de la littérature libanaise contemporaine, Ethel Adnan reçut des menaces de mort. Le roman était inspiré d'un meurtre que des milices chrétiennes avaient commis au début de la guerre civile au Liban. La victime était une jeune femme, chrétienne elle aussi, qui avait osé montrer de la compassion pour des Palestiniens au camp de Shatila à Beyrouth. Ethel Adnan quitta le Liban et ne revenait qu'en pause d'armistice. Lors de l'invasion de l'Irak par les troupes américaines en mars 2003, l'imagination d'Ethel Adnan s'est enflammée. Machinalement, elle a pris du papier et un stylo pour écrire le texte « Vivre en temps de guerre ».
ce savoir est une hantise, c'est une obsession, ce savoir. Parce qu'on accepte la mort des individus, la famille, même des gens jeunes, mais la mort d'un pays. Bon, il n'est pas mort, il continue, mais ils ont tué des choses qui ne reviendront pas. Ils ont tué les vieux quartiers ottomans, les vieux quartiers plus anciens. Ils ont même perdu des trésors archéologiques dans le sud. C'est comme en Irak. Personnellement, je crois que les Américains sont très responsables parce qu'ils avaient leur armée. Quand une armée entre, elle est responsable. Ils ont protégé des buildings et ils ont laissé. Les soldats étaient là, ils voyaient. Donc, ils ont... ça, c'est irrécupérable. Les manuscrits du 9e disent on n'a pas le droit de détruire l'histoire d'un pays. Parce qu'on ne tue pas les gens. On tue les générations suivantes. J'ai des amis qui me disent tu t'intéresses aux pierres et aux livres plus qu'aux gens. Je dis mais non, les pierres et les livres, c'est pour les gens. Les gens, ce n'est pas un objet qui mange. C'est aussi une mémoire, c'est un héritage pour soi et pour le reste, même des pays étrangers. Détruire la bibliothèque et le musée de Bagdad et des sites archéologiques où l'armée américaine s'est installée à Babylone sur des sites. Et quand elle est partie, elle a laissé sa place aux Polonais, des soldats qui mangeaient et qui détruisaient. Je trouve ça... encore plus triste que de perdre des gens. Parce qu'on perd les enfants des gens. Ils vont vivre dans un endroit stérile. Vous voyez, ça c'est des pertes. On ne peut pas se consoler. Ça reste en nous, ce chagrin. Pour moi, la destruction de Bagdad est comme la destruction de Beyrouth. En fait, je crois que j'ai gardé des 60s cette ouverture tiers-mondiste.
Dans les années 60, Ethel Adnan a visité le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. La guerre de six jours en 1967 et, trois ans plus tard, l'écrasement du soulèvement palestinien contre le roi de Jordanie ont prouvé la division du monde arabe. Alors, elle s'est mise à écrire le poème « L'Express Beyrouth en fer » d'un seul trait, en anglais.
C'est un poème qui pouvait être écrit pendant la Grèce ancienne ou écrit dans n'importe quelle situation. Je crois que c'est un poème qui dépasse et qui, il y a un moment où je dis, on aurait droit à la haine, mais on ne veut pas de la haine. Il faut résister à la haine. C'est très dur de résister à la haine. We are living within the star-studded perimeter of the nightmare, which exasperates its spring's beauty, a spring inhabited with flowering trees, damp mountains crowned with translucent clouds, and the breeze which keeps itself awake when our eyes lose their way from west to east through the pink hills. Here is the sorrow of the people who are encircled by tanks and incarcerated in the glens of killers, who moved through borders which are nothing more than the first lines of their multiple prisons. All that to only aggravate the beauty of a world possessed by another folly, impervious to our predicament. There is a tragic encounter between the death of some and the multiplied life of others. Others being the frozen and happy waves of an ocean, lowing its pleasure to be born, eons before our pitiful consciousness. The difference between that which rots and that which doesn't stop being renewed stares at us. We live in abysses. Elsewhere, the fog engulfs the industrial zones, emanations from smokestacks streamlining the horizon fill up the mouths of workers needed but declared undesirable. Gases burn their memories. They forgot that before embarking on the boat, they had a name and an address. For their retirement, they will have incurable diseases. Up there, On my single mountain, birds emit codified songs, fly in pairs, hit the air with their wings and joy. In our sealed heads, thoughts represent a vomit of poisonous gas and reward themselves. The primordial function of survival is providing excuses for death. That's why nature gave up on us. It remains inaccessible. What we tell about it is a pale reflection of its reality. We made ourselves strangers to our fate, though our childhood showed an exuberant lucidity. What happened to the past? Killers don't stop at the flesh. They aim at the invisible, our former bliss. In the meantime, the universe ages. Billions of years have gone by, and the stars are fighting for life. Their shine is no protection against their ultimate disappearance. I know that matter has no eyes, has not stopped breathing. Under the tombs there's fresh earth. We saw rugs woven with vegetal dyes. One had the ochre color of the face of one of the men murdered in Jenin. Don't worry, you won't have to contemplate either this rug or that corpse. During this time, while the enemy soldiers were working in the dark, the universe was aging with us, like us. In our final demise, we will drag God himself to his end.
Une fois qu'Idl Adnan avait exprimé sa compassion, son esprit pouvait à nouveau s'envoler vers d'autres horizons. Paris restait un point d'ancrage de son existence nomade et cosmopolite. Enchanté par la géométrie, l'architecture et un fleuve qui donne vie à toutes les pierres, il cherchait silencieusement et en solitaire les lieux où habitent les anges et des poètes qui les ont vus. Friedrich Hölderlin, qui avait suivi le vol des nuages et qui pouvait pleurer sur les villes de l'Euphrate jamais vues, était son âme sœur. Le voyage dans le temps vers l'année 2006 est terminé. Il reste le souvenir d'une forte personnalité, d'un esprit vif et de réflexion poétique intemporelle. Aujourd'hui, on a le choix. Il y a de nombreuses publications d'Idl Adnan et il y aura certainement plus de textes d'elle en français, en allemand et en anglais. Les éditions suisses, l'Énonce, ont publié pour la première fois un livre de Djat Hilal. Lors d'un séjour à Paris, j'ai rencontré ce jeune auteur. Vous pouvez écouter Djat Hilal dans le prochain numéro de Littéramour parler de son roman Des ailes au loin. Bien à vous et à la prochaine.